Nous arrivons maintenant aux deux derniers chapitres du prophète Ésaïe, deux magnifiques chapitres qui apportent une conclusion à ce livre qui porte notre regard bien au-delà de l'époque d'Ésaïe vers ce qu'il appelle la nouvelle création, le nouveau ciel et les nouvelles terres. Nous arrivons donc au chapitre 65, mais avant d'arriver à cela, il y a de nouveau tout un contraste entre ceux qui sont perdus et ceux qui sont sauvés. Parce que là, c'est l'enjeu, avant de décrire notre avenir, la question se pose, mais qui aura lieu? Qui aura accès à cet avenir? Et aux yeux de Dieu, il y a deux catégories de personnes. Il y a les sauvés et les perdus, parce que Dieu est le juge de tout le monde, et ce n'est qu'en criant vers lui, qu'en acceptant avec humilité son pardon, que nous aurons accès au bonheur éternel. Je lis donc les sept premiers versets d'Ésaïe 65. C'est le jugement des pécheurs. Je me suis laissé consulter par ceux qui ne me demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, à une nation qui ne faisait pas appel en mon nom. À longueur de journée, j'ai tendu mes mains vers un peuple rebelle qui marche sur une mauvaise voie en suivant ses propres pensées. C'est un peuple qui ne cesse de m'irriter en face en offrant des sacrifices dans les jardins et en faisant brûler de l'encens sur les briques. Il habite dans les tombeaux, il passe la nuit dans les endroits bien gardés, et mange de la viande de porc, et remplit ses plats d'aliments impurs. Il prétend « Reste à l'écart, ne t'approche pas de moi, car je suis trop saint pour toi. » Une telle attitude fait monter dans mes narines une fumée, un feu qui brûle toujours. Tout cela reste écrit devant moi. Je ne garderai pas le silence, mais je réglerai mes comptes, oui, je réglerai mes comptes avec eux. Je vous ferai payer vos fautes, ainsi que celles de vos ancêtres, dit l'Éternel, parce qu'ils ont fait brûler de l'encens sur les montagnes et m'ont insulté sur les collines. Je calculerai le salaire de leurs actions passées et je leur paierai. Et j'enchaîne en lisant en fait les versets 11 et 12 qui continuent dans la même veine. Quant à vous qui abandonnez l'Éternel, qui oubliez ma montagne sainte, qui dressez une table pour le Dieu de la chance et remplissez une coupe pour le Dieu du destin, je vous destine à l'épée et vous devrez tous vous agenouiller pour être égorgés. En effet, j'ai appelé et vous n'avez pas répondu. J'ai parlé, vous n'avez pas écouté. Au contraire, vous avez fait ce qui est mal à mes yeux. Vous avez choisi ce qui ne me plaît pas. Avant d'évoquer donc les raisons du jugement, ce chapitre s'ouvre avec une magnifique réponse de la part de Dieu, une réponse à la prière des deux chapitres précédents. Je vous rappelle au chapitre 63, le dernier verset, le verset 19, le prophète disait « Si seulement tu déchirais le ciel et tu descendais ». Donc c'est une prière que le Seigneur descende et porte son secours ou son jugement selon les personnes. Et surtout à la fin du chapitre 64, « Devant tout cela, Éternel, te retiendras-tu d'intervenir? Vas-tu garder le silence et nous humilier à l'excès ?» Autrement dit, réponds à ma prière, Seigneur, ne garde pas le silence. Et justement, au verset 6 du chapitre 65 que l'on vient de lire, Dieu dit, « Je ne garderai pas le silence, mais je réglerai mes comptes. » Ça me fait penser toujours aux personnes autour de nous, peut-être qu'on y pense soi-même. Pourquoi tu n'interviens pas, Seigneur, pour mettre fin à toute injustice, à tout mal dans le monde? Mais si le Seigneur intervient, ce n'est pas de façon neutre, c'est aussi pour juger ceux qui font le mal, ceux qui apportent la violence, ceux qui sont voleurs, meurtriers, racistes, adultère, toutes ces choses qui, comme Dieu le dit, ce qui lui monte dans les narines, qui dit, et pour l'irriter. Et en fait, ce premier verset du chapitre, je me suis laissé consulter par ceux qui ne me demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici à une nation qui ne faisait pas appel en mon nom. L'apôtre Paul le cite dans le Nouveau Testament pour dire que, en fait, Dieu élargit son appel en quelque sorte. Cet appel n'est pas limité à son peuple élu de l'Ancien Testament, le peuple juif, mais son appel s'élargit pour s'adresser aux nations, aux goyim, aux non-juifs. Et dans Romains chapitre 10 et les versets 20 et 21, Paul cite ce verset, justement, « Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas, je me suis révélé à ceux qui ne demandaient rien. » Au sujet d'Israël, il dit « À longueur de journée, j'ai tendu mes mains vers un peuple désobéissant et rebelle. » Donc là, en filigrane, nous voyons dans ces trois chapitres, Romains 9, 10 et 11, que Dieu n'a pas rejeté son peuple, au moins ceux qui se tournent vers lui. N'oublions pas, tous les premiers disciples étaient juifs, mais que les païens, les non-juifs qui croient en Jésus, qui se tournent vers le Dieu de cette nouvelle alliance, sont comme greffés sur la souche d'Israël. Si certaines branches ont été coupées parce qu'ils ne voulaient pas se soumettre à Dieu, les païens sont greffés sur cette souche. Donc ça renvoie par exemple dans le chapitre 11 des Romains, qui dit « Si quelques-unes des branches ont été coupées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu étais greffé parmi les branches restantes, etc. » Donc, comme j'ai dit au début, ces derniers chapitres d'Ésaïe nous obligent à porter le regard beaucoup plus loin que l'époque où le prophète a parlé. Cela dit, à partir du verset 2, il y a tous les reproches qui sont adressés au peuple. Verset 2, « J'ai tendu mes mains vers un peuple rebelle à longueur de journée. » Et pourquoi un peuple rebelle? Parce que les versets 3 à 5 le montrent bien. En fait, il s'agit de l'idolâtrie. C'est de se tourner vers d'autres dieux, d'autres personnes, en quelque sorte, d'autres choses, à la place de Dieu. Que ma définition d'idolâtrie, c'est ce en quoi on place sa confiance et son adoration en dehors de Dieu. Alors, il y a toute une description, ils offrent des sacrifices dans les jardins, ils font brûler de l'encens, ils mangent de la viande de porc. Ils pensent être tellement parfaits qu'ils demandent aux autres de rester à l'écart, car je suis trop saint pour toi. Et dans la partie un peu plus loin, les versets 11 et 12 que j'avais lu aussi, on parle du Dieu de la chance, le Dieu du destin. C'est-à-dire que plutôt que de croire dans un Dieu qui est maître de l'histoire, ils mettent leur sort entre les mains du destin, en quelque sorte, la chance. Mais ils essaient de mettre les chances de leur côté, comme on dirait, en offrant de l'encens, en adorant, en quelque sorte, le Dieu du destin ou le Dieu de la chance. Mais Dieu va punir ses fautes. Ça, c'est les versets 6 et 7. Il va les punir. C'est la justice rétributive, c'est-à-dire que on reçoit ce que l'on mérite à l'égard de son crime. Ils ont mal agi et il n'y a pas moyen d'y échapper. Je calculerai le salaire et de leurs actions passées et je le paierai. Le jugement de Dieu sera toujours totalement juste. Nous, êtres humains, dans les tribunaux, on a du mal. On ne voit pas ce qui se passe dans la tête de quelqu'un, on ne voit pas toujours sa motivation, on ne voit pas son cœur. Dieu nous connaît intimement, chaque être humain, parmi les 7 milliards que nous sommes, puisqu'il est le créateur de toutes choses, Il est tellement grand, tellement immense, qu'il est capable de connaître les pensées, les paroles même avant qu'on les prononce. Hein, c'est un psaume qui le dit. Alors, dans tout cela, première partie de ce chapitre 65 d'Ésaïe, Dieu intervient pour juger les pécheurs. Mais, c'est là, il y a l'autre côté, la bonne nouvelle, versets 8 à 10. Un reste sera sauvé. Voici ce que dit l'Éternel. Quand on trouve du jus dans une grappe, on dit, ne la détruis pas, car il contient une bénédiction. J'agirai de la même manière à cause de mes serviteurs. Je ne détruirai pas tout. Je ferai sortir de Jacob une descendance et de Juda celui qui prendra possession de mes montagnes. Ceux que j'ai choisis en prendront possession. Mes serviteurs y habiteront. Pour mon peuple, pour ceux qui m'auront recherché, le Saron servira de domaine au petit bétail et la vallée d'Accor de lieu de repos au gros bétail. Dans Ésaïe chapitre 5, nous l'avons vu il y a plusieurs années d'ailleurs, Israël est comparé à une vigne que Dieu essaie d'entretenir. Il met une muraille autour, il arrose, il attend du fruit. Mais il n'y a pas toujours le fruit qu'il attendait. Cependant, ce que ce verset dit, c'est que là où il y a du fruit, verset 8, quand on trouve du jus dans une grappe, on ne la détruira pas. C'est-à-dire qu'il y a un reste dans Israël. Au verset 10, il dit, pour mon peuple, pour ceux qui m'auront recherché, il y aura le salut. Et donc, dans ce chapitre, c'est expliqué en termes de l'époque d'Ésaïe, donc sur le plan très matériel. Hein, le Saron servira de domaine au petit bétail. Par exemple, la plaine du Saron était réputée pour sa fertilité. Dieu interviendra en faveur de ceux qui se tournent vers lui. Donc il y a un grand contraste. Et cela, on le lit dans les versets 13 à 16. Je le lis. C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Mes serviteurs mangeront, tandis que vous aurez faim. Ils boiront, tandis que vous aurez soif. Ils seront dans la joie, tandis que vous connaîtrez la honte. Ils chanteront de bonheur, tandis que vous crierez de douleur. Vous lamenterez l'esprit brisé. Vous laisserez votre nom comme une formule de malédiction à ceux que j'ai choisis. Ils diront, que le Seigneur l'Éternel te fasse mourir comme eux. Quant à ses serviteurs, l'Éternel leur donnera un autre nom. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Celui qui prêtera serment dans le pays le fera au nom du Dieu de vérité. Les détresses passées seront oubliées et seront cachées à mes yeux. Donc il y a une différence entre le contraste entre ceux qui se tournent vers Dieu, qui seront bénis, qui connaîtront la joie et qui seront bénis, un peuple béni, et parce qu'ils vont se tourner vers, il se dit par deux fois, le Dieu de vérité. Tout ce que Dieu veut, c'est que l'on soit honnête, que l'on soit vrai, qu'on regarde les choses en face, qu'on voit comment il est lui, et que l'on mesure les choses, et que l'on voit que la bénédiction, c'est uniquement du côté de Dieu, et ce n'est pas lorsqu'on veut prendre son indépendance, son autonomie vis-à-vis de lui. Et c'est à partir de là qu'on arrive à cette partie qui n'est pas tout à fait nouvelle dans Ésaïe, mais c'est cette partie qui parle de nouveau ciel et de nouvelle terre. Pas tout à fait vrai, pas tout à fait nouveau, je veux dire, parce que il en a déjà parlé, le prophète Ésaïe, au chapitre 51, verset 16 par exemple, il dit « Ma main pour déployer un nouveau ciel et fonder une nouvelle terre, et pour dire à Sion, tu es mon peuple. » Mais c'est au chapitre 65 et 66 qui développe beaucoup plus tout cela. C'est une expression qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Avant de lire ce texte, je reviens à ce que j'ai dit à plusieurs reprises au cours de mes derniers enregistrements. Ésaïe vit à l'époque de l'Empire assyrien. Et donc, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 40, il parle des événements contemporains par rapport à sa vie, où les Assyriens viennent s'attaquer à Jérusalem, et Jérusalem est délivrée. À partir du chapitre 40, il voit déjà plus loin. Non seulement il voit la fin de l'Empire assyrien, mais il voit l'Empire suivant, celui de Babylone. Il voit que le peuple d'Israël sera déporté à Babylone, comme le royaume du Nord a été déporté en Assyrie, mais il voit aussi le retour au pays et à Jérusalem. Mais la description des bénédictions de ce retour dépasse tellement la réalité sociale et politique de l'époque d'Ésaïe, et même depuis d'ailleurs jusqu'à nos jours. Israël, Jérusalem n'a jamais connu les bénédictions mentionnées dans ces deux chapitres. Et donc, on comprend que le prophète prend son envol en quelque sorte à la fin de ce livre pour voir bien au-delà jusqu'au dénouement de l'histoire. Et comme je dis, cela est confirmé dans le Nouveau Testament. Je lis donc cette partie à partir du verset 17. Ésaïe 65, verset 17. En effet, je crée un nouveau ciel et une nouvelle terre. On ne se souviendra plus des premiers événements. Ils ne viendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez pour toujours dans l'allégresse à cause de ce que je crée, car je crée Jérusalem pour qu'elle soit une source d'allégresse et son peuple pour qu'il soit une source de joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et dans mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs ni des cris de détresse. Il n'y aura plus de nouveau-nés qui vivent quelques jours seulement, ni de vieillards qui meurent avant d'avoir terminé tout son parcours. Celui qui mourra à 100 ans sera considéré comme jeune. Celui qui n'atteindra pas 100 ans sera considéré comme maudit. Ils reconstruiront des maisons. Ils les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne construiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne feront pas des plantations pour qu'un autre en mange, car la vie des membres de mon peuple sera aussi longue que celle des arbres, et ceux que j'ai choisis jouiront du fruit de leur travail. Ils ne se fatigueront pas pour rien. Ils n'auront pas des enfants qui soient pour eux une source d'inquiétude. En effet, ils formeront une lignée de personnes bénies de l'Éternel, et leur progéniture sera avec eux. Alors, avant même qu'ils ne fassent appel à moi, je leur répondrai. Avant même qu'ils n'aient fini de parler, je les exaucerai. Le loup et l'agneau bouteront ensemble. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture. On ne commettra ni mal ni destruction sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Si vous connaissez ne serait-ce qu'un petit peu le Nouveau Testament, vous allez reconnaître pas mal d'allusions qui sont reprises dans le Nouveau Testament et en particulier dans le livre de l'Apocalypse. Dans ce texte, on peut se poser la question dans quelle mesure il faut prendre les choses au pied de la lettre. Nous allons parler de ça après, en regardant quelques textes du Nouveau Testament. Mais il est vrai que ce texte est rempli d'images pour essayer de nous faire comprendre l'éternité. On ne peut pas tout prendre au pied de la lettre, ne serait-ce que le verset 20, parce que si on prend ce verset au sens littéral, donc il y aurait des vieillards qui meurent, alors que on sait que par ailleurs l'éternité n'a pas de fin. Le verset 21 parle de l'agriculture. Planter des vignes, en manger le fruit. Est-ce que dans l'éternité, dans le nouveau ciel et sur la nouvelle terre, il y aura l'agriculture? Est-ce que ce serait un plaisir de faire cela, de cultiver la terre, d'en manger le fruit? Dans quelle mesure faut-il le prendre littéralement? On peut poser plein de questions. Est-ce qu'on mangera des fraises ou des mangues dans l'éternité? Certains pensent que oui, parce que Dieu va être glorifié par rapport à ce qu'il a déjà fait dans un monde déchu aujourd'hui. Je ne vais pas tranché sur ces questions. De même, par exemple, au verset 22, il parle de construction, ils construiront des maisons, pour qu'un autre les habite. Bon, ça c'est une allusion aux guerres. On construit une maison et l'occupant vient prendre sa maison. Est-ce qu'il y aura, qu'en est-il de la faune et de la flore? Au verset 25, le loup et l'agneau brouteront ensemble. Le bœuf mangera de la paille, etc. Je pense qu'il faut y voir des images qui nous aident à comprendre, mais ce serait un autre niveau d'existence qu'on ne peut pas vraiment imaginer en ce moment. Mais ce que l'on peut dire, et ça c'est le Nouveau Testament qui le dit, qu'il y aurait quand même une certaine continuité entre ce que nous connaissons maintenant et ce que nous connaîtrons à l'avenir. Nous ne serons pas, par exemple, des esprits désincarnés, comme dans l'imagerie populaire, comme une sorte d'ange assis sur des nuages en jouant des harpes ou je ne sais pas quoi. Non, donc ça, c'est pas ça. En revanche, il y a des choses très concrètes que l'on peut retenir. Par exemple, les versets 18 et 19. Vous serez toujours dans l'allégresse. Et Dieu dit, en fait, en plus que ce peuple sera une source d'allégresse pour lui. Donc, il y aura de la joie des deux côtés. On n'entendra plus le bruit des pleurs ni les cris de détresse. Donc, on peut penser qu'il n'y aura pas de douleur, pas de détresse physique, psychique, spirituelle. Parce que, à la fin du verset 25, on lit, on ne commettra ni mal ni destruction sur toute ma montagne sainte. Il n'y aura pas le péché, le mal qui est partout et dans notre monde, et ce mal s'est glissé tellement partout que on peut pas imaginer un monde sans ce mal. Mais si on peut l'imaginer un petit peu, voilà, on est sur cette nouvelle terre, sous le nouveau ciel que Ésaïe évoque dans ce texte. Mais je pense que pour mieux voir toute la portée, il faut aussi se tourner vers le Nouveau Testament, qui nous permettra de voir comment la révélation progressive de Dieu nous aide à comprendre. D'ailleurs, dès la prédication de la bonne nouvelle, tout au début des Actes des Apôtres, Pierre, par exemple, fait référence à ça. Il dit, par exemple, dans Actes 3 et le verset 21, il demande aux gens de se convertir. Changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. C'est Actes 3, verset 19. Et on parle du Messie. Jésus, verset 21, c'est lui que le ciel doit accueillir jusqu'au moment de la restauration totale dont Dieu a parlé depuis longtemps par la bouche de ses saints prophètes. La restauration de la terre, en quelque sorte. Tu as créé cet univers. Est-ce qu'il va mettre une croix dessus, comme on dit? Oui, il va mettre une croix dessus au sens tout à fait littéral. Il a mis la croix de Jésus pour que, en quelque sorte, la partie mauvaise s'arrête, tout le mal s'arrête, mais quelque part pour que sa bonne création continue. Dans Romains chapitre 8, Romains chapitre 8, il y a toute une partie qui évoque le fait que nous gémissons sur la terre actuellement. Dans Romains 8, 18, j'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélé pour nous. Et donc, verset 20, il dit, la création est-elle soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage, de la corruption, pour prendre part ou participer à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Donc, tout comme nous, en quelque sorte, nous serons changés, transformés. Je reviendrai à ça tout à l'heure. La création aussi. Dans 2 Pierre chapitre 3 et le verset 13. 2 Pierre chapitre 3 et le verset 13. On commence déjà au verset 11. Puisque tout notre monde doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes? Donc, dans un sens, il y a une certaine disparition du monde, mais, verset 13, nous attendons, conformément à sa promesse, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Et c'est à la fin du livre de l'Apocalypse que cela est développé avec le plus de précision, tout en étant très imagé, en disant on ne peut pas tout comprendre. Dans Apocalypse 21, verset 1, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, la mer n'existait plus, et je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée, qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple, Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. » Et donc, pendant deux chapitres, il y a toute une description de cette nouvelle réalité. Il ne s'agit pas de l'universalisme. Tout le monde ne sera pas forcément sauvé. Qui aura accès à ce paradis, si on veut, ce nouveau ciel, cette nouvelle terre, c'est Apocalypse 22, verset 14 qui l'explique. « Heureux ceux qui lavent leurs robes, ils auront droit à l'arbre de vie. Ils pourront entrer dans les portes, par les portes, dans la ville. » Au chapitre 7, Jean avait déjà écrit dans l'Apocalypse, le chapitre 7 et le verset 14, un peu par la même expression, et il dit que les personnes qui viennent de la terre, en quelque sorte, ont lavé leur robe et l'ont blanchi dans le sang de l'agneau. Donc il est important de se dire, je ne suis pas potentiellement capable de rentrer dans cette nouvelle existence éternelle par mes propres mérites. Au contraire, il faut que je sois lavé par le sang de Jésus, parce que Jésus a donné son sang, il est mort à la croix, il a porté nos péchés, notre culpabilité, notre châtiment à notre place. Et à partir de ce moment-là, on peut dire, par la grâce de Dieu, ce que nous ne méritons pas, par la grâce de Dieu, nous serons accueillis auprès de lui. Et Ésaïe, pour revenir juste quelques secondes dans Ésaïe, était un peu la même chose, parce que tout le temps il fait des appels, en quelque sorte, aux gens pour qu'ils se tournent vers lui. Le chapitre 45 et le verset 22, par exemple. « Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous qui êtes tous aux extrémités de la terre. En effet, c'est moi qui suis Dieu, il n'y a pas d'autre. » Ou le chapitre 55 et le verset 11. « Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. » Parce que justement, la grâce de Dieu, c'est ce qu'il nous donne gratuitement, sans qu'on ait à payer. Et c'est là ce qui différencie, on va dire, le christianisme biblique de toute autre religion, de toute autre secte. Parfois, dans d'autres sectes, d'autres branches du christianisme, en quelque sorte, il peut y avoir des éléments de vérité, mais le point essentiel, c'est de dire, non pas qu'est-ce qui nous attend à l'avenir, parce qu'on ne peut pas tout expliquer, mais c'est de dire comment j'y ai accès, Et cet accès, c'est par la grâce de Dieu, parce que Jésus est mort pour moi, et jamais parce que je le mérite, jamais parce que j'arrive à la hauteur par mes propres efforts. Donc voilà, qui a accès, bon, ceux qui sont lavés par le sang de Jésus. On peut aussi se poser la question, mais comment ça se passera dans la pratique? Et là encore, il y a un verset qui en parle pas mal, un chapitre qui en parle pas mal, c'est le chapitre 15 de 1 Corinthiens. Grand chapitre sur la résurrection, d'abord la résurrection de Jésus, et puis notre résurrection. Et à un certain moment, Paul imagine quelqu'un qui ne comprend pas et qui dit, mais verset 35, mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps revient-ils? Homme dépourvu de bon sens. Bon, c'est une question un peu bête, on va dire, parce qu'on ne peut pas tout expliquer. Mais il donne une sorte d'explication. Ce que tu sèmes ne peut reprendre vie que s'il meurt. Première explication, c'est qu'en quelque sorte, on plante une graine, mais cette graine, après, quand la plante pousse, quand les fleurs sont là, on cherche en vain dans le sol, la graine n'y est plus. La graine s'est transformée en autre chose. Et la deuxième chose qu'il explique, c'est que on aura un corps adapté à notre nouveau milieu, en quelque sorte. Verset 39. Les êtres vivants n'ont pas tous la même nature. Mais autre est la nature des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Donc, un oiseau, son corps est adapté à l'air, en quelque sorte, il peut voler. Le corps d'un poisson est adapté au milieu aquatique. Mais nous, notre corps sera adapté à cette nouvelle réalité. C'est pour cela que, en quelque sorte, on ne peut pas trop se poser la question « comment ça sera ?» Parce qu'on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. C'est pour ça que Paul dit, comme tout à l'heure, « insensé, homme dépourvu de bon sens, pour chercher vraiment à comprendre. » Mais, ce qui est important, c'est de dire que, en quelque sorte, même quand nous mourons, même quand notre corps disparaît, parce que notre corps actuel va se désagréger petit à petit dans le tombeau. Dans certains cas, si c'est par exemple lors d'un incendie, le corps peut disparaître complètement, hein, donc il ne reste plus rien à enterrer en quelque sorte. Peu importe, parce que Dieu qui est tellement grand a gardé en quelque sorte en lui la sauvegarde, hein, comme en informatique, et il a gardé ce que nous sommes, tous les circuits de notre cerveau, et il va implanter ça en quelque sorte dans ce nouveau corps que nous aurons par la suite. Petite parenthèse, parce que parfois les chrétiens parlent d'aller au ciel, être parti auprès du Seigneur, ce qui est tout à fait vrai, mais il faut que je l'explique. Dans Philippiens 1 par exemple, Paul se pose la question, il est un peu persécuté, il est en prison à l'époque où il écrit, et il dit que Christ est sa vie, et mourir est un gain, hein, c'est Philippiens 1, verset 21, et il continue, je suis tiraillé des deux côtés. Est-ce qu'il est plus utile pour ma tâche que je vive ici-bas? Il dit, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire de continuer à vivre ici-bas. Donc, partir être avec Christ. Dans 2 Corinthiens 5 et le verset 8, on a une expression assez similaire. Et il dit, nous sommes pleins de confiance, même en période de pandémie. Et nous aimerions mieux quitter ce corps pour aller vivre auprès du Seigneur. C'est-à-dire que, en quelque sorte, comme j'ai dit, Dieu a la sauvegarde. Ce que nous sommes, notre âme, si on veut, sera auprès du Seigneur immédiatement après notre mort. Et en attendant la fin du monde, où à ce moment-là, il nous revêtira pour que nous puissions vivre éternellement sur cette nouvelle terre, dans le nouveau ciel, sous le nouveau ciel, on peut dire. Les théologiens appellent cela l'état intermédiaire, donc l'état entre le moment de notre mort et le moment où nous revêtirons un nouveau corps pour cette nouvelle existence. Donc nous ne pouvons pas tout comprendre. Il est impossible et pour cause. Mais nous pouvons et nous devons nous réjouir de cette espérance. Le mot espérance, on le retrouve une cinquantaine de fois dans le Nouveau Testament. Et je termine donc avec cette exhortation que l'on trouve dans Hébreux 10, verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle.